invite à ouvrir dans Éphésiens 3:15. Éphésiens 3:15. Je fléchis le genou devant le Père, dit Paul. Je fléchis le genou devant le Père. De qui toute famille tire son nom. Voilà ce passage que nous allons prendre plusieurs fois dans les messages. Je bénis, je fléchis le genou devant le Père. Vous voyez, Paul fléchit le genou devant le Père. De qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. La famille. L'Église, une famille. Famille naturelle. Une famille. Qu'est-ce qu'il a, une famille? Pardon? Un père. Un père, parce que dans vos Bibles, si vous lisez en grec, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est facilité maintenant avec la Bible Strong, vous pouvez lire le grec sans le savoir. Famille veut dire patria. Famille, dans vos Bibles originelles, c'est patria. Or, tout le monde comprend que patria, ça vient de père. De père. Toute famille a un père. Une mère aussi, mais la mère, c'est naturel, elle porte la vie, elle porte l'enfant. Mais le père, c'est le fondateur, celui qui fonde la famille, celui qui établit la famille. Amen. Sans père, il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille sans père. Or, le plus grand des pères, c'est qui? C'est Dieu. Dieu est appelé père. Il est appelé aussi papa. C'est-à-dire, c'est ce diminutif qu'on utilise quand on est enfant, hein, qu'on a un peu plus de mal à utiliser quand on est grand, si on a eu des mauvaises expériences avec le père. Mais le mot papa est ce mot d'intimité. Est-ce que quelqu'un peut éteindre là les... Il y a des problèmes. Voilà. Ce mot papa. Jésus y a enseigné ce mot papa. Et Jésus avait cette relation intime avec son père, son papa. Voyez-vous ? Papa, c'est pas un nom où on tape dans le dos, voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie d'une voiture, j'ai envie de quelque chose, voilà. Non, papa, c'est ce nom d'intimité où on peut se confier. On peut se confier sans avoir peur. Voyez-vous ? Père, déjà... Ça fait un peu peur pour certains. Papa, c'est cette intimité que Jésus a avec son Père et que nous aussi nous sommes supposés avoir avec notre Père céleste. Je fléchis le genou. Voyez-vous, Paul n'utilise pas souvent cette expression, mais là, c'est très important. Il fléchit le genou devant le Père. De qui ? Toute famille dans le ciel et sur la terre. Donc, ça renvoie déjà à deux types de familles. Une famille dans le ciel et une famille sur la terre. Le problème de l'homme actuel, de l'homme contemporain, de l'homme du 21e siècle, c'est qu'il est perdu parce qu'il veut vivre sa vie individuelle. C'est l'individualisme qui est très lié au matérialisme aussi. On a envie d'une belle voiture, on a l'impression que c'est, voilà, c'est l'accomplissement de sa vie, d'une belle maison, une belle villa, une belle femme pour les hommes, ou un bel homme pour les femmes, peu importe. Vous voyez, c'est désir d'avoir quelque chose, et quand on l'a, au bout de quelque temps, on s'en lasse. Pourquoi ? Parce que les choses en elles-mêmes ne peuvent pas satisfaire le cœur. On a besoin de quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous, pas au même niveau que nous. Les choses sont au même niveau que nous. Un iPhone, il y en a qui attendent l'iPad, qui attendent le nouvel iPad, alors dès qu'il est fini, hop, on attend le prochain, en pensant à chaque fois avoir le bonheur. Et à chaque fois, on est déçu parce que, justement, on a besoin de l'autre. Je sais qu'au début, quand Renault a commencé les voitures, Peugeot aussi, tout ça, les modèles, ils duraient 15 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis plus en activité, donc je ne suis plus trop ces questions-là. Mais en dernière nouvelle, moi, c'était 3 ans. Au 3 ans, ils font changer de modèle. Au moins la carrosserie, déjà. Bon, le moteur, à la limite, les femmes, elles s'en fichent, du moment que ça avance. Mais la carrosserie, il faut la changer. Hein. Donc maintenant, quand vous voulez... Moi, j'aime bien les voitures d'occasion parce que c'est moins cher et je suis bricoleur. Et pour moi, le plus important, c'est que ça avance et que voilà, il y a de la pêche. Maintenant, c'est galère pour trouver des pièces d'occasion parce que si vous n'avez pas le modèle avec la carte grise, avec le numéro du machin, etc., vous êtes fichu. Vous n'avez pas la bonne pièce. Pour suivre ça, il faut vraiment des ordinateurs tellement... Les pièces ne s'ajustent plus parce que la carrosserie a changé, le machin a changé, les essieux ont changé, les trucs ont changé. Hein, Florence, la voiture était au bout et Olivier l'a pris. On a eu galère jusqu'à la remettre sur pied pour trouver les bonnes pièces. On a besoin de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui dure, quelque chose qui nous rende vraiment heureux. Et ce qui nous dépasse, c'est ce Père céleste. Ce Père qui est fondateur de toutes choses, qui est fondateur du ciel, de la terre, mais aussi des humains. Parce qu'il a imaginé avoir des enfants avec lesquels il a une relation. Et c'est pour ça que la plus grande des choses que nous pouvons faire plaisir au Seigneur, c'est d'avoir une relation avec lui. Parce que c'est cette relation qu'il attend avec lui en tant que papa, qu'on lui parle, qu'on lui confie les choses. Et vous, Nick ou d'autres qui témoignent, on sent cette relation, et ça, le Père, il aime. Parce qu'il voit qu'il est utile à quelque chose, et qu'on attend de lui, et il nous rend en fait cet amour par les bienfaits qu'il nous accorde. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, dépend et tire son nom. Dans Galates, le deuxième passage que je vous propose, qu'on a évoqué le dimanche dernier, dans Galates, chapitre 4, verset 24, il y a un autre fondement. Ce fondement, c'est celui d'Abraham, qui est le père de la foi, aussi un père. La notion de père est celui qui fonde les choses. Et il est écrit au verset 22, « Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Et celui de l'esclave fut engendré selon la chair et celui de la femme libre en vertu de la promesse. » Je vais changer le micro parce que je crois. Voilà. Voyez-vous, la Bible, c'est un livre d'enseignement qui nous enseigne au travers d'histoires, au travers du quotidien. Le quotidien, ce sont les hommes, les femmes qui ont vécu dans différentes époques, comme nous on vit dans notre époque. Et le Seigneur parle au travers de ces expériences de ces hommes, de ces femmes de Dieu. Abraham était le premier homme qui a cru dans la parole que Dieu lui adressait. Et Abraham a eu deux femmes, enfin a eu deux fils de deux femmes différentes. Il a eu la promesse qu'il hériterait, qu'il aurait un héritage et qu'il hériterait tellement d'enfants qu'on ne pourrait même pas les compter comme sur le sable de la mer. Parce que c'était un homme de foi qui a établi la foi dans l'humanité. Mais comme la promesse qu'il a reçue tardait, il s'est impatienté. Et cette impatience montre que nous sommes humains, qu'il est humain, qu'il a la foi, mais qu'il est humain. Et nous sommes pareils qu'Abraham. Nous avons la même nature qu'Abraham. Et Abraham, sous la pression de son épouse, qui effectivement s'est rendu à ce constat qu'il n'y avait pas de fils, donc pas de succession, donc pas d'héritage, il a dit, mais pourquoi tu prendrais pas Agar, ma servante. À l'époque, c'était assez courant d'avoir une mère porteuse. C'était couramment admis à l'époque. Eh bien, il a eu un fils, Ismaël. Mais ce fils, Ismaël, n'était pas le fils de la promesse. Et ça lui a posé des problèmes. Des problèmes. Il a dû s'en séparer. Parce que les deux femmes ne pouvaient plus s'entendre. Il y avait de la jalousie. Et vous, on ressort, ça ressort tous les aspects humains des choses. Hein, des hommes et des femmes. Et ensuite, après ça, il a eu l'enfant de la promesse. Mais cette allégorie, alors une allégorie, c'est une image qui renvoie à une réalité dont les traits sont signifiants, qui signifient, chaque trait de l'allégorie signifie quelque chose, contrairement à une parabole. Une parabole signifie globalement quelque chose, mais l'allégorie dans les détails. Donc on peut prendre ça comme un détail très important de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a là, verset 24, une allégorie, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Vous voyez ce qui se passe en Israël avec les Palestiniens? L'origine remonte à Abraham. L'origine remonte à cette erreur qui a été faite dans la chair. Comme quoi les erreurs dans la chair, parfois, sont longues et difficiles à rétablir. Chacun de nous avons connu ça ou connaissons cela, pour certains encore actuellement. Et il faut prier, il faut persévérer pour sortir de ces conséquences de la chair. Nous sommes encore aujourd'hui sous la conséquence de la chair. Et nous devons l'accepter. Il faut exercer l'humilité en disant nous devons l'accepter. D'ailleurs, nous comprenons mieux les autres qui vivent des difficultés si nous l'acceptons pour nous-mêmes. Si nous ne jugeons pas, si nous ne jugeons nous-mêmes, nous allons juger les autres. Donc acceptons les erreurs, acceptons les faiblesses de notre chair. Cette allégorie nous renvoie à deux réalités de l'Église. L'Église spirituelle et l'Église charnelle. Nous avons les deux réalités. Si un chrétien dit qu'il ne pêche pas, qu'est-ce que la Bible dit, Sylvestre? Il est menteur. C'est fort, ça. Un chrétien qui dit qu'il ne pêche pas, il est menteur. C'est fort, ça. Voyez-vous, la Bible n'y va pas par quatre chemins. Quand il dit quelque chose, elle dit les choses vraies. Si l'Église locales que nous formons, mais toutes les églises locales, disent qu'on ne pêche pas, on est menteur. Parce que c'est vrai pour l'individu, c'est vrai pour l'ensemble, puisque l'ensemble, c'est la somme des individus. Donc, nous devons accepter nos erreurs, nous devons accepter nos limitations, nous devons accepter nos finitudes, nous ne sommes pas encore dans le ciel. Nous vivons le royaume déjà, mais il n'est pas encore accompli. Mais nous vivons dans la promesse de l'accomplissement, comme Abraham a vécu dans la promesse d'avoir ce fils. C'est le règne du déjà, pas encore du royaume de Dieu. Voilà donc, nous sommes en face de deux réalités. Et j'aimerais dire que le problème de l'Église, c'est qu'on ne comprend pas vraiment la nature de l'Église, ou tout au moins, moi-même aujourd'hui, on est en 2014, c'est ça? 14 moins 93, ça fait 30 ans. J'ai mis 30 ans pour comprendre ce que c'est que l'Église. Fantastique, ça. Voyez-vous, je suis très très lent, moi. C'est vrai, je suis très lent. Quand je me suis converti en 1967, j'ai mis 15 ans pour obtenir le baptême dans le Saint-Esprit. Ah oui, j'ai galéré. Parce que ma raison ne l'acceptait pas. Voilà. Et donc j'ai eu du mal. Je suis très très lent. Mais une fois que c'est assimilé. Voilà. Mais je suis très lent. 30 ans pour comprendre ce que c'est que l'Église. Pardon ? 20 ans ? Pardon, 20 ans ou 30 ans ? Ah non, c'est 80... Attends, qu'est-ce que je raconte, moi ? La date de départ... Attends, qu'est-ce que je disais, moi ? Je sais plus. Oui, mais pourquoi d'ailleurs ? Oui, mais à propos de quoi ? Je suis perdu. L'église. Non, c'est 83. Parce que 83, c'est la naissance à Orgeval. Voilà, je regarde Marie-France parce que voilà, on a connu les mêmes origines de l'église. Non, 83, pardon. Donc c'est bien 30 ans. 83, moi j'étais en pleine activité aérospatiale, on m'a confié 200 personnes à diriger avec la création d'une unité de production, et c'était un peu galère, et en même temps le Seigneur me demande de rejoindre une équipe d'anciens à Orgeval avec Yves Cornaz pour prendre la responsabilité. Au départ, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je rejoins une église, c'est pas grave, mais Yves Cornaz, c'était pas ça, hein, c'était speed, hein. Les leaders, tout de suite au boulot, et hop, tu commences une église à Aubergeon, à Saint-Martin, et c'est parti. Voilà. Wow, attention là. Mais c'est quoi l'église ? J'ai pas eu le temps de réfléchir, moi. J'étais au travail et tout ça. Voilà. Et donc j'ai accepté ce qu'on m'a enseigné à l'époque. Et à l'époque, on m'a dit, il n'y a que des anciens. Le rôle de pasteur, ça n'existe pas. Que des anciens. Voilà, je suis parti là-dessus, voilà. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que c'était pas si évident que ça, voilà. Et aujourd'hui, en 2014, je peux vous dire maintenant, je comprends ce que c'est que la nature de l'Église. Mais je ne la comprenais pas. Le problème, quand on ne comprend pas qui on est, je ne sais pas si ça vous le fait, ça, quand vous ne savez pas qui vous êtes toujours hésitant. Vous n'osez pas vous affirmer. Vous voyez ? L'identité est importante, parce que si vous connaissez votre identité, vous pouvez vous affirmer. Vous affirmez parce que sinon, c'est les autres qui vous affirment. Enfin, qui vous imposent leur personnalité. Voyez-vous ? Donc c'est très très important de savoir qui on est. Quel est notre rôle ? Comment on fonctionne ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire ? Etc., etc., etc. Ces 10 dernières années, on a beaucoup passé du temps dans l'Église, après les difficultés de 98, de savoir qui je suis en tant que chrétien. Et on a établi dans l'Église ces compréhensions de qui je suis. Est-ce que je suis une personne humaine ou humaine et spirituelle, etc. Être en Christ, une nouvelle créature, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ça, ça a donné lieu à la vision de l'Église. La vision de l'Église, pour ceux qui ne la connaissent pas, je l'ai mise sous forme de vidéo, petite vidéo, clip vidéo, qu'on a fait ensemble, qui explique la vision. Mais c'est surtout la vision du chrétien qui est appelé à devenir mature. Ça, c'est la vision de l'Église. Mais la vision de l'Église, en tant que communauté, en tant que corps, elle va vous être présentée à la rentrée, parce qu'on y travaille avec Arnaud, pour l'écrire sous forme de principes d'église, principes ecclésiastiques, pour bien expliquer qui on est. Or, qui sommes-nous en tant que communauté ? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Église ? Vous savez, je connais beaucoup de pasteurs qui ne savent pas ce que c'est que l'Église. En tout cas, je le vois par leur comportement. Je vous donne quelques exemples. Il y a des pasteurs qui pensent qu'ils ne doivent s'occuper que de la prédication le dimanche et des sacrements, si vous voulez, du baptême, la Sainte Cène, tout ça. Mais toute la gestion de l'Église, c'est les anciens qui le font. Ok ? Une façon de voir. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe avec cette vision d'Église qui n'est pas juste ? C'est qu'il y a souvent des confusions entre les rôles du pasteur, de l'ancien, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, etc. etc. Voilà. Donc il y a confusion. Une autre manière de voir, c'est des pasteurs qui gouvernent comme des monarques, comme des rois, comme une monarchie. C'est-à-dire qu'ils font tout. Ils font tout ce qui doit être fait. C'est très bien. C'est très bien. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils aboutissent forcément à une tyrannie. je connais moins bien que Michel son pasteur à elle, qu'elle aime beaucoup d'ailleurs, Monsieur Copin, pour vous le nommer, il est mort maintenant. Mais c'est un homme exceptionnel. Moi, j'ai commencé les groupes bibliques universitaires à Rouen avec lui. Quand il parlait, il y avait une foule, comme une volée de moineaux qui était autour de lui. Il savait prêcher, il savait parler, il savait. C'est incroyable. Mais à la fin, il est devenu tyrannique dans son église. Au point que dans la librairie, tous les livres ont été éliminés, il ne restait plus que la Bible. Parce que il disait, les gens, les chrétiens, ils comprennent pas, ils appliquent les livres, voilà ce que dit Bénigne, machin, etc. Ils font pareil, tout ça. Bon. Donc, voilà, ça devenait tyrannique. Parce que il avait peur. Il avait peur. Voilà. L'autre configuration, c'est une tyrannie. Il y a d'autres pasteurs qui veulent tout embrasser, veulent tout faire. C'est quoi la conséquence ? Burn-out. Les pasteurs qui sont burn-out, qui sont, comment on dit ça en français, qui sont épuisés à bout, voilà. Mais des pasteurs, je discutais avec eux, je dis, oui, mais il faut quand même réagir là. Ah non, mon médecin, en tant que pasteur, mon médecin m'a dit, surtout, surtout, fais plus rien, parce que tu es au bout, tu lâches. Donc moi, je cherche que des choses, il n'y a pas de stress. Bah forcément, on va pas s'occuper des choses difficiles, qui sont stressantes. Puisque déjà, notre corps est à bout, au point que ça lâche. Est-ce que c'est ça la vision de l'Église ? Non. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension. La position classique, souvent, qui est adoptée par les Églises pentecôtistes, c'est cette notion où le pasteur fait tout et essaie de diriger tout. Pour revenir à mon expérience 83, Yves Cornas qui disait les anciens. Pasteurs, non, ça n'existe pas, c'est les anciens. Pourquoi ? Parce que, effectivement, dans la Bible, le mot pasteur est utilisé qu'une seule fois. C'est dans Éphésiens 4.10. Éphésiens 4.10, c'est le seul moment où la Bible parle de pasteur. Le reste, c'est les anciens. On peut le comprendre. Mais il y a quand même ce verset qui parle de pasteur dans Éphésiens 4.10. Christ a donné à l'Église des pasteurs, docteurs. Donc je suis resté là-dessus et on a connu les problèmes qu'on a connus à Saint-Martin avec les difficultés à se connaître, à vivre en tant qu'ancien, simplement parce que il n'y avait pas de cahier des charges, il n'y avait pas de définition de poste, si vous voulez, il n'y avait pas de précision entre plusieurs anciens qui doivent faire quoi. En 93, donc effectivement pour revenir à la date 93, Jean-Paul Englert, que vous connaissez tous, il nous a parlé du pasteur. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur ? Waouh, je dis, c'est super. Voilà. Et ça m'a parlé. Du coup, je suis rentré dans le rôle de pasteur. Mais ça n'a pas mieux marché parce qu'on a eu des problèmes avec les anciens après. Voilà, en 98. Donc je dis, c'est quoi ça ? Eh bien, aujourd'hui, je vois cet équilibre quand on connaît notre identité. On peut joindre la notion de pasteur avec la notion d'ancien. Mais comment ? Parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est que l'Église. L'Église est une communauté composite. Vous savez ce que c'est que le composite ? Bon, en ce moment, je travaille, c'est pour ça que je suis un peu bronzé là. Je travaille à l'extérieur pour faire une terrasse en composite. Vous savez, c'est les lames de parquet là, qu'on met comme sur la plage, vous voyez ? Voilà. Sauf que moi j'ai pris du composite parce que j'aime pas trop l'entretien. C'est pas mon truc l'entretien. Moi j'aime bien créer mais pas entretenir. Donc je sais que tout ce qui est bois c'est très joli, mais au bout de un an ça devient gris. Gris comme ça. Et tous les bois deviennent gris. Moi j'aime pas le gris sale et tout ça. J'aime bien que ce soit propre. Un coup de karcher et c'est propre. Le composite c'est le seul matériau qui vous permet ça. Donc j'ai choisi du composite. C'est 50% de bois et 50% de PVC. Pas du polyéthylène, du PE. Ça, c'est, les Américains jurent pas que le PE, mais c'est pas bon, ça se dilate de trop. C'est du PVC. C'est comme le plastique des fenêtres, là. Voilà, c'est du PVC. Ah, c'est bien ça. Voilà. Mais il n'y a pas de bois là-dedans. Voilà. Mais le composite, c'est un mélange entre du bois et du plastique. Voilà. J'aime ça. Eh bien, c'est ça l'Église. L'Église, c'est un composite. Voilà. Compris ? Alors, quel composite ? C'est quoi qu'on composite ? Voilà. Alors, ça, c'est déjà l'organisation. Mais avant d'organisation, je vais vous montrer ça. Ça, c'est quoi, ça ? Une poupée russe. Quand j'ouvre, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Waouh ! Qu'est-ce que vous voyez ? Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. Mais les composites, si j'ouvre, il y en a une autre dedans. Hello ! C'est quoi, ça ? Quoi ? Très juste, mais tu vas un peu trop loin, parce que là, je fais de l'analyse. Il faut faire de la synthèse après, on remélange les choses. Mais pour analyser, il faut séparer les choses pour les comprendre. Ok, donc, l'Église, c'est deux choses différentes, mais comme tu as dit à juste titre, après, il faut les remélanger. Hein. Mais c'est deux choses différentes, totalement différentes, dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Alors ça, je l'ai compris quand j'ai fait le livre blanc, le fameux livre blanc, qui m'a coûté 100 et haut pendant 3 ans, là, depuis que j'y travaille. Mais bon, le Seigneur m'a en même temps beaucoup travaillé là-dessus, et donc je ne regrette pas. Ça, c'est l'Église, mais elle est composite. 50% de rouge, 50% de bleu. C'est quoi ces deux réalités ? Je vous écoute, si vous avez des idées. C'est quoi ces deux réalités ? Rappelez-vous l'allégorie que je vous ai dit. Les deux sont des familles. Ça, c'est une famille, et ça, c'est une famille. Ok ? Toute famille a un père qui vient du ciel, qui donne l'autorité. Quels sont ces deux types de familles ? Il y a différents types de familles. Vous le saviez ? Alors, il y a la famille terrestre et la famille céleste. Il y a la Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre. Okay ? Ce qu'on vient de lire, deux allégories. Il y a différentes formes de familles. Qu'est-ce que vous connaissez comme famille, Jean-Claude ? Naturelle, voilà, qui est liée par le sang. Hein, qui remonte à Adam et transmission par la femme, la mère de tous les vivants, Ève, la famille naturelle. Donc la famille naturelle est une forme de famille liée par le sang, donc une fratrie liée par le sang. Est-ce qu'il y a une autre forme de famille que vous connaissez ? Pardon ? Spirituelle. C'est quoi cette famille spirituelle ? Oui ? Quel est le lien ? C'est Jésus. Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus. C'est parce que nous sommes liés par le sang de Jésus. Donc, nous avons déjà deux familles. Hein. Famille spirituelle, par le sang de Jésus, et famille naturelle, par le sang naturel. Est-ce que vous imaginez une autre famille ? Pensez aux 7 familles, là, que vous jouez quand vous étiez petit. Allô, ceux qui étaient là dimanche dernier, c'est qui ? Levez la main. Bon, je l'ai cité. Quelles sont les autres familles ? Hello ? Hello ? Pardon ? Idéologique. Oui, mais il n'y a pas que Jérôme qui doit parler. Il y a tout le monde. Tout le monde était là. Donc, famille d'adoption. Famille idéologique. Famille quoi ? Politique. Famille scientifique. Famille économique. Famille artistique, famille, religieuse. Alors, on reviendra sur la religion. Voilà. Sociale, famille sociale, famille. Et c'est quoi ces familles-là ? On a parlé de deux familles, famille spirituelle, famille naturelle. Et ces familles que vous avez citées, c'est quoi ? Pardon ? Préférence ? Pardon ? Des pensées ? Alors ça peut être abstrait, ça peut être concret aussi. Hein, la famille qui club de boules, c'est pas des pensées, hein, c'est joue aux boules. Hein. Ou la famille des pêcheurs à la ligne, voilà. Non, ça peut être très concret. Hein. Voilà, c'est un choix. Et ça donne, je ne sais pas si vous avez vu des familles comme ça, de gens qui sont pas liés par le sang, mais qui sont des, je sais pas, ceux qui jouent aux cartes, ben, ils se ressemblent. C'est bizarre, hein. C'est des traits généraux communs. Ils ont des traits communs. Il y a ceux qui aiment jouer aux ordinateurs. Voilà. Il y a des traits communs qui se développent. Et ma femme, Michel, dit, c'est quoi quand il y a des informaticiens, ils parlent de trucs de machin, de slash, d'anti-slash, c'est quoi ce truc-là, voilà. Oui, parce que vous comprenez rien. Vous comprenez rien. Parce qu'ils parlent, ce qu'on appelle des chunks, hein, c'est des raccourcis, qui eux, ils ne connaissent que dans leur famille. Vous voyez la notion de famille. Mais vous voyez que par rapport à la famille spirituelle, la famille naturelle, c'est déjà plus relâché comme relation. Les traits généraux. Mais il y en a une qui vient après la famille naturelle, c'est la famille initiatique, ceux qui sont dans les secrets, famille secrète, maçonnique ou autre. Bon, parce qu'ils utilisent le sang aussi. Hein. Mais on ne va pas parler de ça. Hein. C'est très mauvais. Mais une autre après, qui vient tout de suite après, cette famille initiatique, c'est quelle famille? C'est la famille fraternelle en Jésus-Christ. Alors, est-ce que tu te tournes vers ton voisin? Est-ce que tu vois un frère et une sœur en Christ à côté de toi? Même si c'est ton mari ou ton épouse, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu vois, c'est une question que je vous pose, tiens Ruth, tu tournes, est-ce que tu vois une sœur en Christ? Ben voilà, même ta fille, c'est une sœur en Christ. Voilà, vous voyez, c'est le regard, c'est ce que j'appelle la vision, la compréhension de qui nous sommes. À partir du moment où quelqu'un accepte Jésus-Christ, il est bien sûr, Florence est ma fille naturelle, mais il est surtout une sœur en Christ. Et ça, nous, on a du mal. Il y a des pères de famille naturelle, qui ont du mal à voir leurs fils et leurs filles qui sont frères et sœurs en Christ. On ne se comporte plus de la même façon avec eux. Voyez-vous, c'est un shift qui fait se passer dans la tête là. Parce que sinon, on joue mal le rôle de père en particulier. Bon, ça c'est un détail. Ça pourrait être tout un message. L'Église est une famille composite. 50-50. Ces deux familles sont imbriquées l'une dans l'autre. Ça, c'est l'Église locale. Ça, c'est l'Église locale. Famille fraternelle. Frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est l'Église spirituelle. C'est quoi la différence? Il y a une grande différence. Ça, c'est l'Église spirituelle. L'Église universelle. Voyez-vous, quand je comprends ça, et il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ça, mais je ne les juge pas. Moi aussi, je ne l'ai pas compris. Je bénis simplement, je fléchis le genou devant le Père de qui, eh bien, toute famille tire son nom. L'Église universelle, c'est tous ceux, hein, Noëlla, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Est-ce qu'un catholique peut accepter Jésus-Christ? Voilà. Est-ce qu'un protestant peut accepter Jésus-Christ? Est-ce qu'un évangélique peut accepter Jésus-Christ? Est-ce qu'un communiste peut accepter Jésus-Christ? Bon. Donc je suis dans la même famille. Allô? Vous avez compris? C'est ça la conception. Si je comprends ce que c'est que l'Église, moi je peux me rapprocher d'un catholique qui accepte Jésus-Christ parce que je suis frère avec lui. L'Église universelle, elle appartient à personne. C'est qui la tête? C'est qui la tête? C'est Jésus. C'est le seul chef. C'est pas le pape. C'est une déformation religieuse. C'est Jésus. Là, c'est l'image qui est utilisée dans la Bible. C'est quoi comme image? Ça renvoie au fonctionnement d'une image qui est donnée par la Bible de l'Église universelle, que j'appelle aussi congrégation locale. C'est quoi comme image pour comprendre comment fonctionne ça? Le corps de Christ. Ça, c'est un corps. L'image qui est renvoyée dans les épîtres en particulier, c'est le corps. Or, le corps, comment ça fonctionne le corps? Tiens, Claire, tu vas te lever, juste te lever. Le corps, tu étends les bras. Voilà. Le corps, c'est quoi? C'est un ensemble de choses. Voilà, tu bouges les bras, Hein, il y a des bras, il y a tout un tas de choses, il y a des pieds, il y a tout un tas de choses. Il y a des membres qui sont dans l'unité, vous voyez, qui travaillent de manière unie. Donc, merci. Donc le corps qui est utilisé pour cette image de l'Église, eh bien, ça renvoie à des relations où si mon doigt il souffre, mon corps il souffre. Si ma jambe elle souffre, mon corps il souffre. Vous voyez, c'est cette notion de relation les uns avec les autres en Christ, spirituel. Ça, c'est l'image universelle qui dépasse les frontières, qui dépasse les frontières des dénominations, des croyances spécifiques. Parce que c'est une croyance générale. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel. C'est pas parce que j'appartiens à telle église que je suis sauvé, c'est si j'ai reçu Jésus-Christ dans mon cœur. Et ça, je peux être catholique, protestant, n'importe quoi. Et nous sommes tous dans le même corps, puisqu'il n'y en a qu'un seul. Voyez-vous la compréhension ? Bon. L'église locale, maintenant. Quelle est l'image qui est utilisée pour l'église locale, pour expliquer son fonctionnement ? C'est pas un corps. C'est image que je cherche. C'est une image qui est utilisée dans les épîtres, Paul les utilise, dans les épîtres pastorales. Et les épîtres des églises, adressées à des églises, et les épîtres adressées à des pasteurs. Et cette image est utilisée dans des églises, dans des épîtres, qui... Non, l'ecclésia, c'est l'église, c'est tout. L'ecclésia, c'est les deux, c'est l'assemblée. Voilà, donc c'est quoi cette image qui est utilisée ? Pardon ? C'est une maison. Une maison. Ça, c'est un corps, et ça, c'est une maison. Regardez dans Philippiens 1 Timothée 3, 15. Timothée, c'est une épître pastorale, parce que c'est adressé à Timothée, qui était pasteur, et Tite, qui était pasteur. Timothée 3, 15, il est dit, voilà, je lis, hein, 3, 15, 3.15, il est où ? Si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La maison. C'est quoi une maison ? Rémi ? Non, justement. C'est pas un bâtiment. Enfin bon, ça peut être un bâtiment, mais là dans ce qui nous concerne, c'est pas le bâtiment qui est concerné. Pardon ? Oui. Mais aller un petit peu plus loin, c'est une famille, puisqu'on parle de famille. Hein. On a parlé tout à l'heure des familles, jusqu'à la famille des boulistes et tout ça. Donc c'est une famille, mais quelle particularité de famille ? C'est une maison. Vous connaissez la maison, je sais pas, des champagnes, comment, qu'est-ce que tu es comme champagne ? Hein ? Qu'est-ce que tu es ? Maison Lafitte ? Maison, comment ça s'appelle ? Ah, je connais pas trop les champagnes. Quoi ? Donnez-moi un nom de champagne. Mercier. Voilà, Mercier. Mouette et Chandon. C'est quoi ça ? C'est une maison. C'est une maison. Voilà. Bien, Yves. C'est une famille qui a un patrimoine. Bah oui, bah écoute, c'est bien. Il enregistre. C'est bien. La maison, c'est une famille qui a un patrimoine qui se transmet. À partir du moment où la famille est fait banqueroute, ça arrive ça, il n'y a plus de maison, hein. C'est... on n'appelle pas ça une maison. Ça continue par famille. Mercier, par exemple, il ne ferait plus de champagne, ce sera la famille Mercier. Mais la maison Mercier, attention, c'est un nom, une famille. Vous voyez la différence ? Est-ce que je me fais comprendre là ? La maison, c'est une famille qui a un patrimoine à transmettre. Eh bien, c'est ça l'église locale. Et nous, en tant qu'église, chaque église locale devrait avoir une vision, devrait avoir un ADN, devrait avoir une spécificité, devrait avoir quelque chose qu'il a à transmettre. Sinon, eh bien, c'est pas une maison. C'est une famille où les gens se réunissent dans un bâtiment, voilà, mais c'est pas une maison. Et une église locale doit être une maison, une famille qui a des valeurs, et nous, c'est les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Les valeurs du royaume. Et je termine là-dessus, vous vous laissez sur votre faim, parce que j'ai à peine commencé le dixième de mon message. Mais quel est le but de ces deux églises, qui, bien sûr, vous l'avez compris, ne font qu'un, hein? Quel est le but de ces deux églises? Quel est le but de la première église, l'église spirituelle? C'est quoi le but? Quel est le but de cette église corps? Ben, lisez Éphésiens 4, 10. C'est s'édifier soi-même selon la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire que le corps de Christ s'édifie jusqu'à ce qu'on parfait accomplissement. Et quand il est accompli, Jésus revient. Alors, quand est-ce qu'il sera accompli? Je ne sais pas. Mais quand il sera accompli, Jésus revient. Ça, c'est le but de l'Église spirituelle. S'édifier soi-même. Et les ministères qui sont donnés, c'est entre autres pasteurs, docteurs, enseignants, pour équiper les saints, pour le perfectionnement des saints. Le but de ça, c'est quoi? Le but de cette forme d'église locale. C'est un peu plus difficile à trouver parce que c'est un peu plus caché dans les versets. Le premier verset est très simple, Éphésiens 4, 10. Celui-là est un petit peu plus caché, mais il existe dans toutes les épîtres. Allô? C'est Luc 19, 10. Luc 19, 10. C'est une parabole. Luc 19, 10. Jésus a enseigné une parabole à ses disciples qui leur dit quel sera le plus grand dans le royaume de Dieu, etc. Et qu'est-ce qu'il a enseigné? Il a dit à un homme de haute naissance devait partir pour un long voyage pour chercher sa royauté. Et avant de partir, il a confié ses biens à ses serviteurs. Eh bien, la but de ça, c'est la gestion des ressources. Gestion des ressources humaines, gestion des ressources matérielles, gestion, c'est la gestion. C'est pour ça qu'il faut être très bon dans la gestion. Dans la gestion pour cette église locale. Okay? Et cette église locale est dirigée par des anciens. Et la première est dirigée par les pasteurs, mais ça, on reviendra dans le suivant des messages. Et les deux sont réunis ensemble. Et deux objectifs différents, deux attributs différents. Et aujourd'hui, des chrétiens qui sont individualistes ne veulent être que dans cette église-là, parce qu'ils disent « Ah, là, il y a trop de problèmes. Hein, là, il y a trop de problèmes. » Donc voilà, je fais juste partie de ça. Et le reste, je le suis sur Internet. Eh bien, ils perdent beaucoup de choses de l'église locale. Mais l'église locale doit être gérée par des anciens qui pensent aux autres, pas à eux. Qui pensent à valoriser les talents des autres. Il faut que les talents de chacun de vous soient valorisés au maximum de ce que vous pouvez, ce que vous pouvez devenir. Et c'est ça le rôle des anciens. C'est de vous faire entrer dans votre potentiel. Alors, il ne faut pas laisser ce discours au monde. Dans les entreprises, ils y ont compris. Ils ont inventé l'holacratie. C'est la dernière en mode. Zenica suit un petit peu ça. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, parce qu'il y a des combats spirituels, hein, et des combats humains aussi. Mais l'holacratie est la forme la plus élevée de l'entrepreneuriat. Et le monde l'a trouvé. Et l'Église ne l'a pas trouvé. Waouh! C'est dommage. Parce que cette Église-là, devrait montrer l'exemple au monde. Comment le royaume de Dieu est appliqué sur terre, c'est-à-dire le dessein de Dieu pour la famille. Et il devrait montrer l'exemple aux familles naturelles, pour que les familles naturelles puissent copier ce qui se passe dans l'Église. Et devrait donner l'exemple au monde, pour qu'il voit ce qu'une Église peut être quand elle est réellement dans le plan de Dieu. Amen. Voilà, j'arrête là, comme promis midi, ça s'arrête. Mais vous aurez d'autres enseignements là-dessus qui montrent que cette famille, ces deux types de familles, s'imbriquent les unes dans les autres pour être un exemple dans ce monde, avec une organisation et une compréhension des responsabilités qui sont complémentaires et diverses. Amen. Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te demandons que tu nous donnes de pouvoir comprendre ce que c'est que l'Église et l'utilisation des clés du royaume de Dieu. Seigneur, tu as dit, je te donnerai les clés. Et ce que tu liras sur la terre aura été lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura déjà été délié dans le ciel. Que nous puissions comprendre ces choses, que ce soit dans l'église universelle, congrégation, dans l'église locale, maison. Seigneur, nous avons besoin de comprendre cela pour le mettre en pratique, afin que, Seigneur, cela puisse porter du fruit. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen.